Jean-Gilbert, aux amis, bonjour. Marie-Huguette, bonjour. La belle-mère, bonjour. Lucie, bonjour. Maria, bonjour.
Jean-Gilbert, aux amis, bonjour. Oh. Marie-Huguette.
Voilà, il y en a qui ont une double salutation. J'ai pas baissé le bon volume. Voilà. Au moins, ça me dit que le volume fonctionne ou que le son fonctionne. Qui d'autre est là?
Les gens veulent te voir. Les gens veulent te voir.
Marie-André Farley, bonjour. Manon, bonjour. Bienvenue parmi nous ce matin. Donc, on est le mercredi 20 avril 2022. J'espère que vous avez tous survécu à la neige tardive d'hier. Elle a presque toute fondue. Merci Marie-Huguette. Bonjour Thérèse. Donc elle a juste... elle est venue faire un soubresaut. Donc, c'était un soubresaut de l'hiver. Donc voilà, mais tout est déjà fini. Good morning Yaoi. Bisous, Amy. Je n'ai même pas pelleté. Je me suis dit, ça sert à rien. De toute manière, ça va fondre. Et c'était effectivement le cas. Mais ce n'est pas l'envie qui manquait d'aller pelleter, par contre. Bonjour à la sœur Nancy, bonjour à mon père, à ma mère. Si vous entendez des bruits saugrenus, c'est Néma qui, je ne sais pas ce qu'elle fait, hein, qui fait les drôles de bruits. Alors aujourd'hui, journée un peu plus ensoleillée. C'est nuageux avec passage ensoleillé. Et puis, il ne fait pas très très chaud par contre. Je crois une dizaine de degrés maximum aujourd'hui. Et on ne prévoit pas 20 degrés même d'ici la fin du mois. C'est assez étonnant. C'est un avril assez frisquet. Bonjour Daniel, sois béni. Bienvenue parmi nous. Bonjour à la belle-mère. Bonjour Claude. Shalom la belle-mère. Bonjour Guy. Bonjour Janine. Bonjour Pascal. Merci Guy, sois béni toi aussi. Bonjour Consuelo. Bonjour au frère Jean aussi. Salut Daniel. Ouais, je suis revenu à mon ancien décor, j'ai juste orienté l'écran, la caméra différemment, mais... sur un des écrans que j'ai devant moi, ça paraît bien. De l'autre, ça semble, le contre-jour semble très fort. Donc, je suppose que ça dépend de quel écran on a à la maison. Ça peut être désagréable de voir autant de luminosité en arrière de moi. Bonjour Nathalie. Que Dieu te bénisse. J'étais content de t'apercevoir dimanche avec la petite famille. Sois bénie, Nathalie. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Salut Gilles. Bonjour Joanne. Merci Consuelo, bonne journée à toi aussi. Maggie, bonjour. Merci Nathalie. Merci Maggie. Alors vous avez encore 4 ou 5 minutes avant qu'on ne débute officiellement. Ça peut être l'occasion pour aller vous abreuver comme Néma le fait actuellement. Et vous chercher un café, un thé. Merci Janine. Moi, j'aime bien aussi Pascal, mais ça, au niveau technique cinématographique, on va dire, on évite à faire à filmer à contre-jour, parce que ça peut faire des ombrages, puis ça peut aussi rendre l'image floue. Donc, c'est pour ça que j'avais changé dans l'autre angle, mais dans l'autre angle. Certains étaient tristes de ne pas voir la nénette. Donc là, dans cet angle-ci, vous pouvez un peu la voir par moment. Bonjour Francine. Là, on s'excuse pour hier, c'était avec la neige. Dans notre quartier, il y avait des fluctuations de tension. En tout cas, dans mon pâté de maison, il y avait des fluctuations de tension. Et à chaque fois que l'électricité baissait, ça ne coupait pas, mais à chaque fois que ça baissait, il y avait, ça relançait la connexion Internet. Donc ça coupait, ça relançait, c'était une quinzaine de minutes pour reprendre. C'était ça la problématique. À quelques encablures de chez nous, il y a la belle-mère qui, elle, n'avait pas d'électricité. Donc je suppose que c'était une problématique un peu généralisée dans le quartier. Voir tout autour de Montréal. La neige était très lourde quand même lorsqu'elle est tombée hier. C'était neige et pluie, donc voilà pourquoi on n'était pas en ligne hier. Merci Francine, soyez bénie. Bonjour Bernadette, sois bénie. Donc la sœur Rachel me disait qu'elle n'était pas là ce matin. Donc, si elle nous écoute plus tard, on la salue. Et on salue malgré tout les sœurs qui se connectent avec elle habituellement. Je ne sais pas si elles ont trouvé un autre moyen pendant l'absence de la sœur Rachel, mais la sœur Auxiliaire, la sœur Chantal, la sœur Mona, on vous salue. Bonjour à la sœur Livy. J'ai une pensée toute spéciale pour elle ce matin. Il nous écoute habituellement en différé, donc on la salue. Bon, ce matin, on va reprendre l'enseignement de dimanche dans Jean au chapitre 21, des versets 1 à 14. Jean 21, du verset 1 à 14. Mais ce matin, on va essentiellement étudier la première moitié de ce passage, donc du verset 1 à 8. Encore une minute et on va débuter. Marie-Marthe, bonjour. Votre amie Manon est branchée. On l'a saluée tout à l'heure. Alors prions et après ça je vous donne les indications pour aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction d'être encore vivant, de pouvoir plonger nos regards dans ta parole et de savoir que celle-ci a été préparée de toute éternité pour nous. Tu savais les mots qu'on aurait besoin d'entendre aujourd'hui, tu savais Seigneur. La dose de cette parole dont nous avions besoin pour aujourd'hui, et c'est elle que tu as préparée. Alors nous te demandons simplement de nous accorder la sagesse, de nous approprier cette parole, de la recevoir avec gratitude, en l'honorant, parce que cette parole, c'est toi. Alors lorsqu'on honore ta parole, c'est toi que nous honorons. Lorsque nous désobéissons à ta parole, c'est à toi que nous désobéissons. Alors on te demande, Seigneur, de faire en sorte que cette parole puisse pleinement apporter dans nos vies ce pourquoi elle est proclamée. Et de notre côté, Seigneur, nous nous engageons à obéir à ta parole, nous nous engageons à la suivre, nous nous engageons, Seigneur, à faire en sorte que cette préparation, ce travail, cette pensée que tu avais pour nous en préparant cette parole, que nous puissions pleinement l'honorer. Parce que c'est un privilège de recevoir de ta part, de plonger nos regards dans le Logos, de plonger nos regards, Seigneur, dans le Réma que tu as pour nous. Alors, en toute chose, que toute ta gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la majesté, et que toute la louange et l'adoration te reviennent à toi, et strictement qu'à toi, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 21. Comme vous savez, dimanche, c'était le dimanche de Pâques, en fait, le dimanche de la résurrection pour être plus précis. Et on a pris un texte connexe à la résurrection de Jésus. Une des apparitions que Jésus va faire entre le jour de sa résurrection et le jour de son départ vers le ciel, de son enlèvement vers le ciel, son ascension plutôt vers le ciel. Donc entre les deux, il a plusieurs rencontres avec ses disciples. Ici, on assiste à une troisième fois où il se présente auprès du même groupe de disciples. Ils sont huit à la base, on va les nommer tout à l'heure dans la lecture, pour la plupart. Mais quand on fait le calcul, ils sont à cette apparition, ils sont huit. Jésus va apparaître à quelques reprises, comme j'ai dit, à partir de sa résurrection jusqu'à son ascension. Et parfois c'est à un individu, parfois c'est à deux individus, parfois c'est à un groupe un peu plus étendu. La parole nous dit qu'il est même pas apparu jusqu'à un groupe de 500 personnes. Donc c'est donc une de ces présentations, de ces manifestations de Christ ressuscité. Alors je lis pour vous Jean 21, 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur donna et fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, ce passage relate une intervention de Jésus ou une apparition de Jésus auprès de ses disciples se passe donc entre le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques ou le dimanche de la résurrection, jusqu'à son ascension. Et ici, il apparaît donc sur le bord de la mer de Tibériade, en Galilée, là où les disciples ont été invités à retourner. Donc, ils sont sur le bord de la mer de Tibériade et Jésus va apparaître à 8 personnes. Le décompte ici, certains vont dire, mais comment on est sûr qu'il y avait 8 personnes? Faisons le décompte. Simon-Pierre, au verset 2, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et eux, ils étaient deux, c'était Jacques et André, et les deux autres disciples que Jésus, avec lesquels Jésus était ensemble, donc deux autres, et celui, bien sûr, que Jésus aimait. Donc, ils sont 8. À ces 8-là, Jésus apparaît. Dans la partie d'aujourd'hui, on va voir 3 points négatifs et on gardera les points positifs pour le restant de la semaine. Et on va essayer d'aller rapidement. Le passage est divisé en 5 grandes parties. Donc, du verset 1 au verset 3, du verset 4 au verset 6, du verset 7 au verset 8, du verset 9 au verset 11, puis du verset 12 au verset 14. Relisons le verset 1 à 3 qui est la première section. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher » et lui dire, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Première section. Nous, quand on voit ce passage, on sait déjà la suite. On sait déjà ce que Pierre, ce que Jacques, André, Jean vont devenir. On sait déjà quelles sont les aspirations que Dieu a pour eux. Pourquoi? Parce qu'on est armé de 2000 ans d'histoire. On est armé surtout de la parole de Dieu qui nous permet de savoir la suite. Mais ces hommes-là ne savent pas ce qui va se passer. Il ne leur a pas encore été assigné une tâche. Jésus ne leur a pas encore parlé de la grande commission, cette grande commission qui dit « Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples cette assignation, cette tâche, cette mission n'a pas encore été donnée aux disciples. La seule chose qu'ils savent, c'est que voilà, on a marché pendant 3 ans avec Jésus. Jésus a été arrêté de façon rapide. En moins de 12 heures, il avait été arrêté, jugé, mis en croix et mis au tombeau. C'est le laps de temps que ça a pris entre l'arrestation et puis la mort de Jésus, c'est 12 heures. Et pour ceux qui chercheraient un bon livre à ce sujet, probablement dans la littérature chrétienne, un de mes livres préférés, ça s'appelle « 6 heures un vendredi ». Et on revient sur les 6 dernières heures de Jésus et c'est fait par l'auteur qui s'appelle Max Lucado. C'est romancé, c'est dit avec beaucoup de style. Ça existe en français, en anglais, en espagnol. Vous pourrez le trouver. 6 heures un vendredi, 6 hours a Friday, de Max Lucado, un pasteur des États-Unis. Donc, ces hommes-là ont vu Jésus arrêté, ont pleuré pendant 3 jours, et au troisième jour, ils entendent la nouvelle comme quoi il est ressuscité, comme quoi il n'est plus dans le tombeau. D'abord, des femmes qui sont allées au tombeau vont revenir avec le message comme quoi Jésus est ressuscité. Pierre et Jean vont s'y pointer, ils vont avoir une apparition, puis il va y avoir les disciples qui étaient partis vers Emmaüs qui fuyaient Jérusalem, ces deux disciples qui vont revenir prestement à Jérusalem pour dire aux autres, ben, ce que Pierre vous a dit, c'est la réalité. Jésus nous est aussi apparu, et à peine ont-ils fini de raconter leur histoire que Jésus rentre dans la pièce qui était pourtant fermée à double tour, et Jésus se présente à eux. Jésus va se présenter une autre fois alors que Thomas est sur place cette fois-ci. La première fois, il était absent. On lui a raconté ce qui s'était passé. Il dit, moi, à moins que je ne vois ses mains, ses pieds, à moins que je ne mette mes doigts dans ses plaies, je ne peux pas croire. Et Jésus se présente et interpelle Thomas en lui disant, ben ouais, viens toucher. Viens regarder. Et puis il lui dit cette phrase si importante, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Le dilemme qu'on a, parce qu'on est des lecteurs avertis, parce qu'on est connaissant de l'histoire qui va se poursuivre jusqu'à nos jours, c'est qu'on relit cette histoire sans comprendre le désarroi des disciples. Eux voient Jésus apparaître, disparaître, apparaître, disparaître depuis la résurrection, mais aucun mandat et aucun travail ne leur est encore demandé. Ils sont juste dans l'attente de la prochaine apparition, si il y a prochaine apparition. Et la thématique de cette semaine qui s'intitule À l'école du ressuscité, à l'école de Christ le ressuscité, on va voir ce matin 3 choses qui se passent quand Christ n'est pas là. Dans cette histoire, dans cette anecdote, Jésus est pas là. Ils ont voyagé jusqu'en Galilée, ça fait peut-être quelques jours qu'ils attendent, ça fait peut-être quelques jours que Jésus ne s'est pas présenté. Et là, Pierre dit, moi je m'en vais à la pêche. Et les 8 qui sont avec lui disent, ben nous on vient avec toi. Alors le premier point ce matin, sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Certains se rappelleront d'un cantique. Je l'ai chanté étant tout jeune en français. J'avais quelqu'un qui m'accompagnait pour le chant. Il avait été traduit. Et le cantique, c'était un cantique en espagnol, si je ne m'abuse, qui disait, nous, dans notre traduction, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Lorsque tu es fatigué, ta croix lourde à porter, appelle le nom de Jésus et il t'aidera, parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Et c'est le cas des disciples. Ils sont désœuvrés, ils sont dans l'attente. Et désœuvrés, le terme peut sembler assez radical ou assez cru pour certains, mais désœuvrer veut simplement dire être sorti de son œuvre ou ne plus avoir d'œuvre. Pensez un peu, ça fait 3 ans que ces hommes suivent Jésus. Ça fait 3 ans qu'ils ont quitté leur filet, pour ceux qui étaient des pêcheurs professionnels, qui ont quitté leur table d'impôts pour ceux qui étaient collecteurs d'impôts comme Matthieu. Et ça fait 3 ans qu'ils, jour après jour, hormis depuis la mort de Jésus, jour après jour, ils sont constamment avec Jésus, voyageant avec lui, recevant de lui indications quotidiennes sur voici le programme. Ça fait 3 jours que Jésus dit, bon ben, ou ça fait 3 ans plutôt que Jésus dit, aujourd'hui on va à droite, aujourd'hui on va à gauche, aujourd'hui on va jusqu'à telle ville, aujourd'hui on prend tel chemin pour se rendre à tel autre endroit. Ils l'ont suivi et n'avaient plus le programme de leur vie entre leurs mains. Mais maintenant que Jésus est mort et que Jésus ne leur apparaît que de façon sporadique, ils sont là, désœuvrés. Pour une première fois en 3 ans, ils ne savent pas quoi faire. Et pour nous, c'est la même chose. Lorsqu'on s'éloigne de notre intimité avec Dieu, lorsqu'on laisse pour compte notre intimité avec Dieu, on revient à cette étape où nous ne savons pas quoi faire, où nous avons besoin de retourner à Christ pour recevoir de sa part indication. Ce qui est triste, c'est que cette histoire nous illustre aussi ce qui se passe lorsqu'on est désœuvré. Très souvent, lorsque nous ne sommes plus en train de faire le travail que Dieu avait pour nous, lorsque nous ne sommes plus en train d'accomplir l'œuvre que le Seigneur avait pour nous, ce qui se passe, c'est qu'on retourne en arrière. Sans qu'il n'y ait de mal à aller à la pêche, sans qu'il n'y ait de mal à occuper le métier à l'époque ou aujourd'hui de pêcheur professionnel, pêcheur, celui qui va à la pêche de poissons, on s'entend, ça représente malgré tout un retour en arrière. Ces hommes-là avaient parcouru tout Israël, avaient parcouru tout le territoire d'Israël, tout le pays, et ils avaient vu des miracles. Ils avaient été un peu comme la cohorte qui accompagne Jésus, qui s'occupe des moindres tracas ou des moindres besoins de Jésus en préparant les maisons où il doit être hébergé, en préparant la nourriture, en s'occupant des foules qui rejoignent la cohorte. Mais là, sans travail, sans occupation, sans indication, ils retournent en arrière à ceux qu'ils ont connus avant leur rencontre avec Jésus. Et pour nous, ça doit être un important avis ou une importante mise en danger. On doit comprendre que lorsque je ne fais pas attention à ma relation et à mon intimité avec Christ, premièrement, je ne vais plus recevoir d'indications ou je ne saurais pas interpréter les indications de Jésus ou comprendre les indications de Jésus sur ce que je dois faire de ma journée, sur ce que je dois faire de ma vie. Et pire encore, je risque de retourner en arrière, tout comme Pierre, Jacques, André, Jean et les autres ont fait en allant accompagner Pierre à la pêche. Le verset 4 à 6, donc le premier point ce matin, sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Le verset 4 à 6, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté de la barque, du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le premier point, c'était sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Le deuxième point, c'est sans Christ, on ne peut rien faire. Ils ont été à la pêche, pensant que l'activité serait profitable. Ce sont des pêcheurs professionnels, des pêcheurs qui ont une réputation en Galilée. On voit que lorsque Jésus les a abordés pour la toute première fois, ils étaient une compagnie avec un minimum de 2 barques, ce qui veut dire qu'ils étaient quand même assez bien nantis, qu'ils avaient assez bien réussi professionnellement, donc qu'ils savaient comment faire la profession de pêcheur. Et ce soir, la nuit dernière, un peu comme lorsque Jésus les rencontre la toute première fois, ben la nuit s'est avérée infructueuse. Pas de poisson. Ils ne savent pas quoi faire. Et là, ils arrivent au constat que, de toute manière, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils jettent leur filet à droite, à gauche, devant, derrière. Ils avancent, ils reculent. Ils vont en eau un peu plus profonde. Ils reviennent. Et toujours pas de poisson. Les instructions pour la réussite ne vont leur arriver que lorsque Jésus se présente sur la plage. Avant ça, même dans leur profession d'antan, ils n'ont pas les indications nécessaires pour réussir. Sans Christ, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que faire quelque chose veut dire accomplir le propos de Dieu pour notre vie. Tu as été créé avec un mandat, tu as été créé avec un propos. Tu n'es pas simplement le fruit de l'amour de papa et de maman, tu n'es pas simplement le fruit de la biologie, tu n'es pas simplement le fruit du hasard, tu es le fruit de la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu pensait à toi de toute éternité, c'était avec un objectif, avec un plan, avec une tâche, avec un travail tout particulier. Il avait quelque chose à te confier. Et à moins que tu ne sois proche de Jésus, à moins que tu ne reçoives de lui ses instructions, tu ne pourras pas savoir quoi faire. Ils ne savent quoi faire simplement que lorsque Jésus, s'adressant à eux, même s'ils ne l'ont pas encore reconnu, Jésus leur dit « Jetez le filet à droite ». Et là, ils le jettent et la pêche arrive. Donc, sans Christ, on ne peut rien faire. On se rend compte aussi qu'ils sont incapables de tirer le filet. On nous dit que c'est comme par peine et misère qu'ils ramènent le filet jusqu'à la berge. Ils disent, ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Venir à saisir que la capacité humaine est insuffisante pour le plan de Christ. C'est ce que cette image nous permet de comprendre. Jésus leur dit, jetez le filet. Ils jettent le filet et là, ils sont incapables de remonter le filet. Même si ce sont des pêcheurs aguerris, même si certains d'entre eux doivent être assez gaillards, mais on se rend compte que la force naturelle ne peut pas se mélanger avec le plan surnaturel de Dieu. Sans Christ, on ne peut rien faire. Leurs filets sont pleins, et à moins que Christ ne permette la chose, il leur est impossible de remonter le filet. Versets 7 à 8. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. On a vu tout d'abord, sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Puis, sans Christ, on ne peut rien faire. Cette troisième et dernière partie pour aujourd'hui nous dirait plutôt, sans Christ, on fait mal les choses. Sans Christ, on ne fait rien, on ne peut rien faire. Sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Et sans Christ, on fait mal les choses. Regardez l'histoire. Jean a cette perception en disant, waouh, ça me rappelle un événement dans notre vie. Il y a quelques années, lorsqu'on a rencontré Jésus, on était dans cette même situation où on avait déployé tout notre zèle et il ne se passait rien. Et là, Jésus a dit, « Jetez vos filets. » On l'a jeté et le poisson est venu dans le filet à tel point que les barques coulaient tellement il y avait de poissons. Et Jean allume en disant, « C'est Jésus. » Pierre entend « C'est Jésus », laisse ses disciples, se rhabille et saute pour aller nager jusqu'à Jésus. Le malheur ici, c'est que on pense que Pierre a bien fait. Pierre a bien fait de délaisser ses compagnons pour se rendre jusqu'à Jésus. En fait, Pierre, comme ça arrive très souvent, est mené par son ego. Un ego qui lui fait dire souvent des phrases pour lesquelles il va devoir se repentir ou pour lesquelles il va se mordre les doigts. On se rappelle que quelques semaines avant cet événement-là, Jésus lui dit, dans l'après-midi qui précédait son arrestation, Jésus parle de sa mort et Pierre dit, « Non, tout le monde pourrait t'abandonner, mais moi je vais venir avec toi et je suis prêt à mourir pour toi. » Et Jésus lui dit, « Regarde Pierre, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras déjà renié trois fois. » Et lorsqu'on relit ces passages, on se rend compte que à la troisième fois, le coq se met à chanter et le regard de Jésus tombe sur le regard de Pierre. Et Pierre devait se dire, « Ouais, il me l'a dit. » Et moi, je lui avais dit que non, ça n'allait pas arriver, que j'allais l'accompagner jusqu'à la mort. Intempestif, sanguin, explosif, imbu de lui-même aussi. Parce que c'est fort probablement pour ça qu'il a sauté à l'eau. Ici, on nous dit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Alors le disciple que Jésus aimait. On sait tous que c'est Jean. La problématique, c'est que Jean est l'auteur de l'évangile de Jean. Et que cette mention, celui que Jésus aimait, ne se retrouve que dans l'évangile de Jean. Il y a un côté un peu égocentré, un peu égocentrique dans cette mention, le disciple que Jésus aimait. Et dans l'attitude de Pierre qui saute en se moquant un peu ou en ne se souciant pas de ses confrères, en se disant « je vais être le premier à aller voir Jésus, je vais être le premier à arriver là-bas », il se jette à l'eau et il laisse de côté ses frères qui travaillent. Lorsque Christ n'est pas avec nous, on fait mal les choses. C'est souvent l'ego qui nous domine. C'est souvent les ambitions personnelles qui nous dominent. Et je vous dirais que certains vont même pratiquer le ministère avec cet ego qui motive en fait leur travail. Certains vont pratiquer, ils vont avoir cette phrase, « Maintenant je fais, avant on me bloquait ». Quand tu dis qu'on te bloquait, quand tu dis qu'on te freinait, quand tu dis qu'on t'empêchait, tu parles de qui? De Dieu ou des hommes? Parce que si tu crois que les hommes t'ont bloqué jusqu'à présent, laisse-moi te dire quelque chose, Dieu d'un claquement de doigts pouvait ouvrir la porte. Dieu d'un claquement de doigts pouvait te positionner. Dieu d'un claquement de doigts pouvait faire sauter toute embûche et tout bloqueur qui se mettait devant toi. Alors ces hommes étaient plus grands, plus forts, plus puissants que ton Dieu? Ou serait-ce plutôt que Dieu avait décidé de ne pas enlever le frein? Dieu avait décidé de ne pas enlever ce qui bloquait. Dieu avait décidé de ne pas encore ouvrir la porte. Lorsque mon temps devient plus important que le temps de Dieu, lorsque mon temps précède le temps de Dieu, lorsque mes ambitions sont différentes des ambitions, si nobles seraient mes ambitions, si ce n'est pas le plan et la pensée de Dieu, ces ambitions ne sont motivées que par moi-même. Je veux faire quelque chose pour Jésus. Tu veux faire quelque chose pour Jésus, pourquoi? Pour être le premier à le faire? Pour être reconnu par Jésus? Pour être reconnu par les hommes que Jésus t'a reconnu? Quel est le désir profond de ton œuvre pour Jésus? Est-ce de remplir le mandat que Christ a pour toi en obéissance et en humilité? Ou est-ce pour qu'enfin les gens puissent voir que tu as rempli ton mandat? Je le dis et je le répète encore. Parfois, même l'action du ministère, même le service que l'on rend au sein du corps de Christ, et parfois fait par de mauvais sentiments ou avec de mauvaises ambitions. On lit ce texte et on se dit, mais Pierre a sauté à l'eau pour aller voir Jésus, pour s'approcher de lui, peut-être pour se jeter à ses pieds. Peut-être qu'il était simplement curieux. Peut-être qu'il était simplement dans le désir d'être le premier à être là. Ce faisant, ce qui est clair, c'est qu'il a laissé ses confrères tout seuls avec le filet. Et on voit qu'ils ont une grande peine à ramener le filet près du rivage. Et ce travail-là devient facile lorsque Pierre, parce que Jésus dit « Donnez-moi de votre poisson, amenez-moi de votre poisson », alors Pierre saute dans la barque et seul prend le filet et le tire jusqu'à la berge. Que se serait-il passé si Pierre, au lieu de sauter à l'eau, de nager jusqu'à aller à Jésus, Pierre s'était acquitté de sa tâche au sein de son groupe, au sein de son escadron, au sein de son équipée, et avait tiré le filet. Le filet aurait été plus simple à amener. Lorsque Christ n'est pas au centre de nos activités, on fait mal les choses, l'égoïsme, l'égocentrisme l'emporte, et de surcroît à cela, le travail d'équipe est délaissé. C'est les autres disciples qui sont venus avec la barque et le filet, alors que Pierre avait délaissé sa tâche. Faisons attention, l'Église n'est pas un one-man show. L'Église n'est pas un spectacle d'une élite. L'Église n'est pas le travail d'une élite. On a tous une tâche à accomplir dans le corps de Christ. On a tous un mandat qui nous a été donné, un mandat qui est différent d'une personne à l'autre. Certains ont un mandat plus visible que d'autres. Certains ont un travail mais nous avons tous à contribuer à l'œuvre et à l'avancement de l'œuvre de Christ. Ne saute pas de la barque pour délaisser le filet. Ne saute pas de la barque pour satisfaire tes sens, tes passions personnelles. Remplis ton travail là où Dieu t'a placé. Remplis ta tâche là où Dieu t'a placé. Voilà ce que nous avions pour ce matin. Les trois grandes pensées. Sans Christ, on ne sait pas quoi faire. Sans Christ, on ne peut rien faire. Et sans Christ, on fait mal les choses. Demain, on verra avec les aspects positifs. Là, c'était les aspects négatifs qu'on ressassait aujourd'hui. C'est fait. Demain, on passe à la bénédiction qui est liée à l'école du Christ ressuscité. Christ ici a enseigné, une fois ressuscité, a enseigné à ses disciples qui allaient commencer l'Église, qui allaient être les précurseurs de l'Église. Il leur a enseigné que sans lui, on ne savait pas quoi faire, que sans lui, on ne pouvait rien faire et que sans lui, on faisait mal les choses. Alors prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce rappel du danger qui nous guette à vivre nos vies sans nous préoccuper de ta présence, sans nous préoccuper de ta pensée. Si on vit nos vies selon nos propres pensées, selon nos propres ambitions, selon nos propres penchants de cœur. Ta parole nous dit que nul n'est juste. Alors moi non plus, dans mes pensées, dans mes ambitions, je ne suis pas juste. Je ne peux accomplir toute justice que lorsque je suis instruit par toi et lorsque je mets tes instructions en action. Lorsque j'applique tes instructions et lorsque je les applique jusqu'à destination. Alors je prie, Seigneur, d'apprendre quoi faire auprès de toi. Je prie, Seigneur, de comprendre que sans toi, je ne peux rien faire. Et je prie, Seigneur, de comprendre que si je ne veille pas à ma proximité avec toi, c'est l'ego, le moi, qui va l'emporter. Et ce moi-là est mauvais. Ce moi est méchant. Ce moi est pécheur. Ce moi est corrompu et ne me mène pas à toi, ne me mène pas à accomplir ta volonté. Alors Seigneur, je veux me dépouiller de moi-même afin que tu habites en moi, que tu vives à travers moi, que tu parles à travers moi, pour que quoi que ce soit que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, où que j'aille, quelle que soit l'activité à laquelle je m'adonne, que ce soit fait selon ta pensée et uniquement ta pensée. Guide ma sœur, guide mon frère, arrose ces quelques paroles qu'on a partagées ce matin et que nous puissions tous comprendre et saisir l'importance capitale de se garder près de toi, de se garder connecté à toi. Et merci Seigneur de nous enseigner comme tu as enseigné tes disciples, de nous enseigner aujourd'hui encore que sans toi, on ne peut rien faire, que sans toi, on ne sait pas quoi faire, et que sans toi, même si on essaie de faire quelque chose, ces choses ne seront pas adéquatement faites. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, garde-nous dans ta présence. Nous avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle le rendez-vous ce soir, 19h avec le pasteur André Bernard. C'est le cours sur les fondements chrétiens. On arrive pratiquement au terme de cette série d'enseignements. Donc vous pouvez encore vous joindre à nous pour ces enseignements. C'est à 19h sur toutes les plateformes Internet de l'Église, dont la page Facebook, bien entendu. Alors sur ce, que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne journée dans la présence de Jésus. Demandez-lui ce qu'il veut que vous fassiez, demandez-lui comment il veut que vous le fassiez et faites ce que Jésus veut que vous fassiez. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.